En 1974, il apparaît que, puisqu'il va y avoir une présidentielle, une candidature d'un écologiste est absolument incontournable. Alors, il faut trouver qui ?
Yves Frémion, écrivain, journaliste, critique de BD, ancien député européen vert et actuellement conseiller régional d'Île-de-France, auteur de « L'histoire de la révolution écologiste » publié aux éditions Webec, disponible chez Ecodif et dans toutes les librairies.
Il y a quelqu'un qui incarne à la fois, pas tellement l'écologie, mais en tout cas toute l'alternative et qui ferait consensus absolument, c'est Charles Piaget, qui est ce syndicaliste CFDT qui a mené tout le combat de l'IP. C'est le grand leader des LIP, comme on dit. Et Charles Piaget va subir le tir de barrage de ses deux meilleurs amis, si je peux dire. Il est membre de la CFDT et Edmond Maire, qui en est le leader, et qui lui souhaite un ralliement de la CFDT à la social-démocratie à ce moment-là, va le dissuader. Et de l'autre côté, Piaget est bien entendu membre du PSU, c'est Michel Rocard, qui est à cette époque-là le leader du PSU et qui lui est déjà en train de préparer son ralliement au Parti Socialiste, qui va pousser dans le même sens. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, Charles Piaget annonce qu'il ne sera pas candidat. Donc la question se pose, qui ça peut être ? Alors, du côté des écologistes, on fait vite le bilan. Il y a Philippe Saint-Marc, mais il est anti-parti officiellement et de toute façon, il est de droite. Donc il ne fera pas le consensus. Théodore Monod a 72 ans, il se trouve trop vieux. Jean Carlier sait très bien que s'il fait ça, il n'aura plus le poste génial qu'il a dans l'information avec son émission sur RTL. Le commandant Cousteau, qui sera sollicité plusieurs fois par la suite, se récuse une première fois comme il le fera toujours. Et on pense enfin à Charles Lorient, qui n'est pas connu du tout, c'est d'ailleurs son principal défaut, et qui anime le mouvement français pour l'abondance. Donc un disciple de Jacques Dubois. Donc tous ces gens-là ne peuvent pas faire l'affaire. Et c'est là que des gens pensent, d'ailleurs Jean Carlier est un de ceux qui pensent le premier, à faire appel à René Dumont. Alors René Dumont, il n'est pas jeune lui non plus, il a 70 ans, après tout il a presque le même âge que Théodore Monod. Mais il a fait vraiment un tabac avec certains de ses livres, surtout évidemment L'Afrique est mal partie, qui a été un best-seller et qui a vraiment remis les choses au clair sur les questions Nord-Sud. Il a une grande carrière d'agronome, d'abord productiviste et puis virulemment antiproductiviste par la suite. Il a fait sa révolution verte dans les deux sens, c'est-à-dire révolution verte au niveau agricole et révolution verte dans sa tête en faveur de l'écologie. C'est lui aussi un grand disciple de Dubois et puis de quelques autres grands penseurs de l'écologie que nous avons vus dans d'autres chapitres. Et il est tout le temps... Il a été consulté pour le Club de Rome, il a beaucoup d'amitié pour quelques grands penseurs de l'écologie. Et un jour, il arrive d'Algérie en avion, il est en djellaba, il descend de l'avion et en bas de l'avion, il trouve Brice Lalonde, Jean Carlier et un pionnier un peu oublié aujourd'hui qui s'appelle Georges Krasowski, qui tous les trois sont venus en deux chevaux lui proposer d'être le candidat de tous les écologistes et alternatifs à la présidentielle. Alors, j'ai pas besoin de vous dire que Dumont, il tombe complètement dénu, il ne s'attendait pas du tout à ça. Il leur demande à réfléchir, il y a une nouvelle réunion avec les mêmes, avec quelques autres. Il exige d'être assuré que Charles Piaget n'y va pas, sinon il soutiendra Piaget. Piaget n'y va pas. Et les Carlier, Lalonde et Jean-Luc Burgunder, qui est aujourd'hui un élu vert, qui sont là à cette réunion, le persuadent. En lui assurant qu'il pourra parler majoritairement de sa question préférée, qui est le tiers-monde. Et donc, il y a un vote, évidemment. Parce que ce sont les associations, à l'époque, qui vont l'investir. Ce n'est pas les partis, puisqu'il n'y en a pas. Et Tout Écologie et Survie, par exemple, ou d'autres groupes vont le soutenir vivement. Et puis, il y en a des militants qui, aujourd'hui, on joue un certain rôle chez nous, comme Yves Cochet, qui sont là, vont le soutenir. Alors, il y a des oppositions, évidemment, mais au bout d'un moment, même les régionalistes vont se rallier à sa candidature, et il va être le premier, puisque lui, il réussira à trouver les 100 signatures, à pouvoir se présenter comme écologiste à une élection présidentielle. On n'imagine pas à quel point c'est une déflagration. C'est même hallucinant parce que très peu de gens vont parler de René Dumont. Il ne va pas être soutenu par tout le monde. Il va faire un score encore moindre que celui de Dominique Voynet à la dernière présidentielle. Mais pourtant, il va tout changer. Parce que, premièrement, pour la première fois, on va entendre parler d'écologie à la télévision française. Et pas de n'importe quelle manière. Parce que René Dumont, c'était un personnage carré. C'était quelqu'un qui ne se laissait pas influencer par quoi que ce soit. Il avait son style et ça ne se discutait pas. Alors on raconte des anecdotes amusantes le concernant. Par exemple, la première fois qu'il est invité à la maison de la radio pour une émission de télé, ben il refuse de rentrer. Parce que sur la porte d'entrée, il y a un panneau avec « Interdit aux animaux ». Alors il dit « Je ne peux pas rentrer, je suis un animal ». Je n'ai pas besoin de vous dire que toutes les associations animalières grimpent au mur en disant « Ça y est, nous avons un candidat qui sait parler de nous ». Ensuite, dans le studio, on lui dit « Écoutez, l'émission est dans un quart d'heure, vous pouvez patienter ». Et ben, il se couche sur la moquette et il dort. Et ça fait évidemment un peu la stupeur. Comme on imagine, essayer d'imaginer un candidat à la présidentielle qui ferait ça aujourd'hui, parce que tout simplement, il n'a pas de temps à perdre et que lui, il n'a pas beaucoup de temps pour dormir, il en profite, il fait un petit somme. Il se présente toujours avec son éternel pullover rouge, parce qu'il se revendique quand même homme de gauche, il a pas honte de dire qu'il est aussi rouge que vert, et sa bouteille d'eau en verre et non pas en plastique, sur lequel il fait tout un cours et il explique que dans 20 ans, il n'y aura plus d'eau potable en France. Et je pense qu'on aurait bien fait de l'écouter à ce moment-là. Et puis c'est une déflagration aussi parce que pour plein de jeunes militants, moi j'en suis, j'étais vraiment de cette génération-là, d'un seul coup, les choses étaient possibles. On n'était plus à se dire, on va peut-être se présenter au municipal. On avait un bonhomme qui incarnait nos idées à l'échelon national. Alors, ce qu'on peut vraiment regretter aujourd'hui, c'est l'attitude de la presse écologiste. À l'époque, il y a deux grands journaux consacrés à l'écologie en France. L'un, c'est Le Sauvage. Le Sauvage est une revue qui est publiée par le Nouvel Observateur à l'initiative de Alain Hervé, qui est un des animateurs des Amis de la Terre. Il a toute l'équipe Amis de la Terre, Brice Lalonde derrière. D'ailleurs, Brice Lalonde travaille à ce journal comme salarié, enfin comme maquettiste, je crois. Et puis, un autre journal qui est La Gueule Ouverte. Alors, le paradoxe, c'est que La Gueule Ouverte appelle à l'abstention. Charlie Hebdo, qui est son journal frère, appelle aussi à l'abstention, que Le Sauvage appelle à voter François Mitterrand au premier tour, et que les grandes revues qui parlent d'écologie en France, les revues de Fournier, les revues d'Alain Hervé, ne vont pas soutenir le premier candidat écologiste à la présidence de la République. Ça, c'est hallucinant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Mais par contre, il y a un journal qui a déjà fait un numéro entier sur l'écologie, qui est attentif à ces questions. Le grand journal de la contre-culture à l'époque, qui est Actuel, dont le grand fondateur Jean-François Bizot nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et je le salue, et qui se pose la question de qu'est-ce qu'on fait pour la candidature de René Dumont. Et ce journal, dans lequel il n'y a pas un seul écolo, en tout cas aucun n'est encore écolo, va préparer, enfin 5 des 7 rédacteurs, dont j'ai l'honneur d'être, vont préparer en 2 nuits un numéro hors série de Actuel, entièrement consacré au soutien à la candidature de René Dumont, et vont tirer ce tabloïd à 100 000 exemplaires qui vont être donnés à la campagne de René Dumont. Je me souviens avoir apporté le stock de ces journaux sur la péniche sur lesquelles René Dumont avait son comité de campagne, en compagnie d'un autre de ses journalistes, un inconnu à l'époque autant que moi, qui s'appelait Patrick Rambaud, qui depuis est devenu un de nos prix Goncourt. Et nous avons apporté ce journal à l'équipe de René Dumont, qui était absolument suffoquée de voir qu'il y avait des gens qui les soutenaient à ce point-là, alors que les 5 rédacteurs Deux étaient trotskistes, un était au PSU, un était Mao et l'autre était anarchiste. Il n'y en avait aucun qui était écolo et c'est quand même ce journal qui a soutenu cette campagne. Donc c'est une petite chose qu'il faut rappeler à des moments parce qu'on n'est pas toujours prophète en son pays. En tout cas, quoi qu'il en soit, René Dumont n'a pas fait un score extraordinaire, mais pour l'écologie politique, c'était la première fois qu'il y en avait un de score, un vrai. Et à partir de ce moment-là, tout a été possible. Et par la suite, nous avons eu un copinage, cousinage, fraternité permanente avec René Dumont, qui était parfois sur nos listes, en queue de liste aux européennes, qui était toujours sur nos comités de soutien, qui était dans nos meetings, qui était dans nos manifs, et avec qui nous avons fait ce long compagnonnage, parce que par chance, il a vécu longtemps, avec ce personnage extraordinaire et que nous aimions tous.